Culture Club. Christophe Maury.
Décidément, le petit palais livre de bien belles expositions. Nous avons déjà parlé d'André de Vambèze et avec son humour, mais aussi son réalisme. Et puis là, Laurent Bonneval nous emmène voir l'exposition Walter Sickert avec ce titre aguicheur, peindre et transgresser. Bonjour.
Et bonjour Christophe.
Oui. Bonjour Laurent.
En effet, c'est un drôle de personnage que l'on découvre.
Alors, c'est un gentleman distingué qui aime se déguiser. Je cite son ami Jacques-Émile Blanche. Il pouvait prendre l'apparence de l'empereur François-Joseph. Il pouvait être aussi élégant que le mannequin d'un tailleur, aussi loqueteux qu'un clochard. Et c'est Jacques-Émile Blanche qui écrit ça. Jacques-Émile Blanche, d'ailleurs, dont on voit le portrait qui date de 1910, qu'on voit dans cette exposition. Il est en haute forme et manteau de la douceur du regard et de l'autorité dans la mise. Alors, Walter Sickert a été attiré par la France. Il va vivre à Dieppe, où il s'installe pendant 5 ans. C'est là qu'il rencontre Jacques-Émile Blanche, on vient d'en parler. Les deux mourront d'ailleurs la même année, en 1942. Et puis, il se lie aussi avec Degas. Alors là, toutes ces influences, il faut que vous nous en parliez, Laurent Bonneval.
Alors, ce sont ces influences qui vont le former en tant que peintre, parce qu'il n'était pas fait pour ça. En tout cas, ça n'est pas ce à quoi il se destinait.
Il se destinait à quoi ?
Il avait prévu d'être acteur, figurez-vous.
Ah ben voilà.
Acteur. Alors, pendant 3 ans, il a essayé.
Ouais.
Il a fait partie de plusieurs compagnies, sans grand succès, mais il a conservé toujours ce goût du déguisement, du travestissement de sa personnalité. C'est un gentleman, oui, quand il veut, s'il veut, mais c'est aussi un cockney avec un accent très populaire,
ouais,
le britannique. Il est capable de faire tout ça, et ça l'amuse énormément de changer d'apparence. Il va se raser la tête, se faire pousser la barbe, s'habiller différemment. C'est un caméléon, dira Jacques-Émile Blanche toujours, puisque c'est surtout à travers lui et sa correspondance qu'on le connaît. Et donc, ce sont ces deux grands mentors que sont d'abord Whistler et puis ensuite Degas, qui l'ont vraiment initié à la peinture. Et ce sont ces deux tendances qu'on va retrouver tout au long de son existence, dans sa palette et dans sa manière de peindre.
Et c'est cette passion pour le théâtre qui va le pousser à beaucoup peindre sur le théâtre et sur le music-hall.
Et justement, à transgresser.
Et à transgresser.
Parce que c'en est une de transgression, celle-là, que de mettre en valeur ces lieux infâmes où se produisent sur des scènes, des petites scènes, des petits théâtres,
d'autant
des petites vertus.
Mais oui, d'autant qu'en 1880, on commence à faire un peu une oppression contre les music halls, parce qu'il y a des excès de boissons, il y a des excès de prostitution, et les music halls vont commencer à fermer, ou en tout cas à être très très surveillés par la police. Et lui, à ce moment-là, il se met à peindre des scènes de music halls, comme Toulouse-Lautrec peignait des scènes de bordel.
Mais exactement, mais il n'y a guère que les puritains anglais victoriens pour voir du mal à cela à l'époque. En France, la peinture s'est depuis longtemps convertie à ces lieux un peu troubles.
Alors, on voit dans cette exposition beaucoup de portraits. Il a fait beaucoup d'autoportraits, comme pour marquer le temps, et puis aussi pour montrer ce côté caméléon aussi que l'on voit dans ces autoportraits.
Exactement, il change énormément. Il change énormément d'aspects, et à travers ces autoportraits, on suit les différentes étapes de sa vie, ses heures et malheurs sentimentaux, ses déboires financiers, ses déboires de santé également.
Son divorce.
Et son divorce, le premier en tout cas, qui lui coûtera fort cher, puisque c'est madame qu'il trompait allègrement, qui faisait bouillir la marmite, et qui donc va le laisser un peu sur la paille le jour où elle claque la porte.
C'est lui qui trompait madame
Pardon, je n'ai pas été clair. C'est lui qui trompait madame, et ce n'était pas une très très bonne idée, puisque c'est elle qui avait l'argent.
Alors, on a ses autoportraits, mais on a aussi beaucoup de portraits. Alors, il cherche à exprimer l'intériorité, ce qui est propre à tous les bons portraitistes, mais finalement, voilà, ses portraits ne plaisent pas toujours à leur commanditaire. On n'est pas Carolus Duran obligatoirement, et c'est la dèche.
Ben, il ne cherche pas à plaire. Alors,
ben
forcément,
non.
Si on ne cherche pas à plaire,
on ne rentre pas à l'Académie française.
Ah, ben non. Et puis, ses portraits frisent parfois la caricature, à trop vouloir jouer du pittoresque, du physique des uns et des autres.
C'est du pittoresque ou c'est vraiment une quête de l'intériorité du personnage, à votre avis ?
On dit quête d'intériorité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pittoresque.
Oui.
Il y a beaucoup de pittoresque dans certains portraits avec des éclairages sophistiqués, compliqués, qui viennent déformer des visages. C'est plus la recherche. Il s'amuse.
La modernité s'installe dans ces toiles. On a des immeubles, on a l'hôtel royal de Dieppe, on a des rues. Et puis, il passe de petites formes sombres, finalement, à de grands formats lumineux, un peu marqués par l'école du plein air, les impressionnistes. Et puis, on sent la patte des Nabis aussi.
Oui.
Alors, il s'imprègne de tout ça. Comment ça se passe ?
Eh bien, il connaît tout le monde, pour commencer. C'est-à-dire que pour s'imprégner de tous ces gens-là, il faut les voir, il faut les fréquenter.
Ouais.
Il va débarquer en France la première fois, en 1883. Il accompagne à ce moment-là un grand portrait fort célèbre, qui est le portrait de la mère de Whistler. Il est rentré chez Whistler en tant qu'apprenti. Il a travaillé à préparer la palette de Whistler lorsqu'il part peindre en plein air, à faire des gravures pour Whistler ou à transposer des compositions en gravure. Et puis un jour, Whistler lui demande d'escorter en quelque sorte ce grand portrait de sa mère, vous savez, celui qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, qu'il souhaite exposer au Salon des artistes français. Et c'est là que, muni d'une lettre de recommandation, il sera accueilli à Dieppe par Degas. Et donc, tous ces gens-là, il les côtoie. Simplement. Et il va vraiment s'inspirer de ceux qui deviennent ses maîtres.
Alors, il y a une vraie camaraderie entre eux, on a l'impression.
Ah oui,
quand on voit cette exposition et qu'on devine les pattes des uns et des autres, on se dit qu'il y a une vraie complicité.
Ah, tout à fait. Et alors, j'ai été très, très surpris de retrouver le lieu de cette complicité. Le lieu où il faut être à l'époque, c'est Dieppe, figurez-vous,
oui.
Qui est un centre culturel, à mon grand étonnement, où se croisent de nombreux artistes. Et c'est un peu une clique de Dieppe, si on peut dire, qui se constitue autour de Sicard, qui s'y installe. D'ailleurs, hein, il va y vivre 7 ans, je crois.
Oui, c'est à la même époque que Ernest Feydeau emmène sa famille, dont Georges, et il retrouve là-bas Flaubert, et il retrouve toute une coterie d'écrivains, de peintres, et tous grands buveurs.
Et ah, oui, ça, effectivement, ce sont de bons vivants.
Tous sont de bons vivants. Mais il faut dire que le port de Dieppe ne porte pas forcément la gaieté en toute saison.
Alors, ça ne se voit pas trop sur les toiles.
Oui.
Il a su choisir les moments, les éclairages, les saisons. Il va se lâcher. Il va vraiment se lâcher dans le paysage.
Et c'est ça qui est étonnant, je trouve, dans cette exposition, c'est que plus il avance dans la vie, plus il va vivre de malheurs, entre la dèche financière, le départ de sa femme. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Et plus il avance dans la vie, et plus il devient clair dans ses toiles.
Oui, mais alors le paysage, là, au contraire, ça marche. Sur un plan commercial, autant le portrait est un véritable fiasco, autant le pictoresque, ça paye en matière de paysage. Et ces paysages vont être très appréciés, très collectionnés, surtout par des Français d'ailleurs. Il va être représenté par des grands marchands, Bernheim Jeune, avec lequel il a carrément un contrat. Bernheim Jeune qui lui achète des toiles en masse, qui stocke du Sicard, parce qu'il mise sur Sicard. Et il va vraiment essayer de tirer le meilleur de chacun des lieux qu'il représente. Il est très souvent à Venise, très très souvent à Venise.
Alors Venise, 95. La basilique Saint-Marc, c'est la cathédrale de Rouen de Monet. Il va la faire 5, 6, 7 fois selon les éclairages.
Voilà, alors ça, il n'a rien inventé.
Oui.
Effectivement, il va se prendre au jeu des séries et il va décliner comme ça toutes les lumières possibles, toutes les saisons possibles sur la façade aussi bien de la cathédrale Saint-Marc qu'aussi à Dieppe de l'église Saint-Jacques.
Tout à fait.
Avec son portail gothique, sa façade gothique. Qui finalement rappelle beaucoup plus le travail de Monet sur la façade de la cathédrale de Rouen.
Alors il y a un genre qui est très british, c'est les conversations de pieces.
Oui.
Et là, on en a un paquet.
Oui, mais alors là, il en donne une interprétation qui est loin d'être british. Pour
oui.
Le coup. Ce qui est british, c'est l'humour.
Alors expliquons aux auditeurs ce qu'est une conversation de pieces.
Ah, les conversation pieces, c'est un style en peinture qui est né au XVIIIe siècle avec William Hogarth en Angleterre et qui consiste à réaliser un portrait collectif. Alors, les détracteurs du genre à l'époque vont dire que c'est une manière de faire des économies, faire des portraits pour des fauchés et faire poser tout le monde sur un même tableau. Ce qui fait qu'on retrouve des familles entières ou des groupes de personnes assis faisant la causette, d'où le nom Conversation Pieces, soit dans un parc, soit dans un salon assez élégant. Et il va détourner ça complètement. Parce que ces conversation pieces, c'est plus du tout des portraits aristocratiques. Ce sont des prostituées dans les chambres, dans des bouges. Mmh. Alors, il n'est pas, comme Toulouse-Lautrec, adepte des bordels. En revanche, il va vraiment sonder les bas-fonds du Londres de cette fin 19e siècle, en louant des petites chambres chez des logeuses un peu minables à Camden Town, qui est un quartier très populaire, et puis en y faisant poser des filles de petite vertu, dans leur plus simple appareil, évidemment, mais dans le cas des conversation pieces, elles sont accompagnées d'un homme. Lui, intégralement habillé, bien sûr, tout qui joue sur ce contraste entre la femme nue, l'homme habillé, et il nous laisse libre, finalement, d'inventer un petit peu ce que l'on veut comme sujet autour de
cette table. C'est pas eux qui nous imposent la conversation, c'est nous qui la projetons sur la toile.
Oui, et il nous y aide. Et il nous y aide et il s'amuse énormément parce qu'en fonction du titre qu'il va donner à ses toiles, l'interprétation qu'on en fait est complètement différente.
Oui.
Je prends un exemple tout simple qui est un tableau qu'il va baptiser à une époque l'affaire de Camden Town. Bon, c'est une femme nue, allongée, inerte évidemment sur le tableau, avec un homme habillé, assis sur ce même lit, et puis la tête enfoncée dans les mains d'un air songeur. Si le tableau s'intitule l'affaire de Camden Town, il fait évidemment référence à l'époque à un fait divers. C'était l'histoire d'une prostituée qui avait été retrouvée étranglée dans son lit, dans une petite chambre comme ça, chez une logeuse. Et on n'avait jamais retrouvé le meurtrier. Alors l'affaire de Camden Town, c'est évidemment l'illustration de cet homme qui vient d'étrangler cette prostituée et puis qui reste prostré comme ça dans le spectacle devant le spectacle de ce qu'il a réalisé. Et puis il va changer le titre. Et le titre, il va l'appeler « What shall we do about the rent ?» C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le loyer ? Alors, ça n'a plus rien à voir. On est à la fin du mois, au début d'un autre. Enfin, c'est plutôt par semaine que ça marche à l'époque, en Angleterre. Et puis, c'est un mari qui demande à sa femme, « Zut, comment on va faire pour payer le loyer ? Alors, est-ce que ça va devoir faire un petit tour par le trottoir, chérie ? Ou alors, est-ce qu'on va trouver une autre solution ?» Et le tableau en dégage un sens complètement différent.
Mais oui.
Il va beaucoup s'amuser avec ça. Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous citer.
Alors, restons un moment sur une peinture qui, moi, m'a fasciné dans cette exposition, c'est l'ennui. Ah. C'est en 1914. On voit un couple, la femme qui est accoudée au buffet, qui semble prier. Mais on n'en est pas sûr parce que le portrait qu'elle regarde est coupé.
Oui.
Est-ce que c'est une Vierge Marie qu'elle implore ? On ne sait pas, on le devine. Et l'homme lui tourne le dos, il est affalé, il est attablé devant une bière avec un cendrier dans lequel les mégots indiquent le temps, parce qu'ils sont fort nombreux. Il fume, on le sent dans les vapeurs de l'alcool et du cigare, il n'y a pas un mot. Et le silence est criard dans ses couleurs marrons et tristes. C'est vraiment l'ennui, c'est une toile formidable.
Alors les couleurs ne sont pas si ternes quand même. Il y a un fond jaune qui est assez, qui est assez pétard. C'est une des rares conversation pieces, peut-être la plus grande qui soit exposée, l'une des rares où il n'y ait pas de nu. Donc on est transporté dans un monde différent pour une fois. Et ce qu'il explore également à travers ces conversation pieces, c'est les relations entre hommes et femmes. Alors elles peuvent être nues sur un lit, évidemment. Elles peuvent aussi être femmes au foyer, mariées, avec ou sans grand bonheur, avec un homme. Et c'est le portrait de deux êtres qui s'ignorent complètement.
Qui sont dans une solitude terrible.
Tout à fait. Et en même temps, la composition fait en sorte de les confondre l'un et l'autre un seul bloc.
Ils sont à gauche du tableau.
Complètement.
Il n'y a rien à droite.
Et les deux se continuent l'un l'autre visuellement. Ils forment un même bloc. Donc on sent deux êtres unis unis matériellement. Puisqu'ils sont vraiment fondus l'un dans l'autre, très distants l'un de l'autre, parce qu'en réalité, la perspective fait comprendre qu'ils sont très éloignés, c'est-à-dire que madame est très très loin derrière monsieur. Ils regardent tous les deux dans deux directions opposées. Monsieur en bas à droite dans le vague, monsieur en bas à droite fumant son cigare nonchalamment, et puis madame alors absorbée effectivement par un tableau. Difficile de dire si elle prie. La situation s'y prête mollement quand même.
Elle a les deux mains. Elle a les deux mains sur ce que on peut distinguer comme un buffet.
Oui, oui.
Et puis il y a ce cadre qui est ovale, dont on ne voit qu'une partie, mais même pas un quart.
Ah ben oui.
Avec une teinte de bleu dedans, d'où l'idée de la Vierge Marie, et d'où l'idée que, comme elle a ses deux mains sur le presque en prière, donc on a l'impression qu'elle est en prière, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Et le peintre nous laisse complètement, Walter Sickert nous laisse complètement libre de l'interprétation.
Alors en revanche, une chose est certaine, c'est qu'elle fuit.
Ah oui,
qu'elle s'évade par la prière, par la rêverie, chacun fuit.
L'un par l'alcool et l'autre par la rêverie.
Voilà. Parce qu'il y a effectivement un grand verre
de bière
vide vide.
Il est bien vide. Presque vide.
Elle est presque vide. Ouais. Il faudra que je regarde le fond la prochaine fois. Il y a un grand verre, effectivement, ouais, quasiment vide, qui est au premier plan de la composition. Il est juste à côté de monsieur. Et elle s'évade par le haut, par une rêverie, une méditation, une prière. Effectivement.
C'est un tableau génial, j'ai trouvé.
Il est très fort. Très fort. Il est plein d'humour, très caustique. Il a forcément quelque chose quand on le regarde. Situation qu'on a déjà connue à un moment ou à un autre.
Dans l'exposition, ça a été l'un de mes préférés, en tout cas.
Ah oui.
Et vous, votre toile...
Elle est toute petite, personne ne la remarque, mais je l'aime beaucoup.
Vous êtes comme Stéphane Covio, vous repérez toujours la petite.
Peut-être, c'est une toile qui s'appelle Le Système, The System.
Ouais.
Et alors, c'est une table de jeu. Donc on voit le tapis vert, hein, avec les carreaux, etc. Et puis un homme âgé, chauve déjà, mais grisonnant sur les côtés, avec une grande barbe grise, tout à fait effondré au bout de cette table, en train de compter les dernières pièces qui lui restent, le système. C'était un système qui était fait pour gagner, évidemment.
Ouais, c'est horrible.
Qui a visiblement pas tourné à l'avantage de son concepteur. Et on sent ce personnage à la fois effondré, qui se triture les méninges, qui se demande, mais comment ça se fait que ça n'a pas marché? Et bien sûr, je vais me refaire. Hein.
Bien sûr.
C'est la constante chez les addicts joueurs du jeu. J'ai adoré cette toile-là.
Alors, est-ce un manque d'inspiration? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va se tourner vers les transpositions, oui, qui sont des adaptations de photos par les techniques de quadrillage de la toile et de quadrillage de la photo. On a tous fait ça à un moment donné pour être au plus près de ce que l'on voit.
Oui.
Et il va même projeter des motifs avec une lanterne de projection, comme on aura un demi-siècle plus tard, parce qu'il meurt en 42, un demi-siècle, oui, plus tard, on aura le American Painting qui s'approprie cette technique-là.
Alors, c'est en ça que c'est un précurseur, déjà.
Oui.
C'est pour ça que c'est une redécouverte pour nous. Sickert, on aurait pu commencer par là, c'est un peu le chaînon manquant dans la peinture figurative anglaise, ou anglo-saxonne en général, entre les grands figuratifs modernes de la fin du 19e siècle, qui sont français, personne d'autre sur le façon,
sur le marché,
vivent en France, sur le marché, et la génération après, des Hockney, Lucian Freud, Francis Bacon, bon, ils s'en réclament, ces gens-là, de Sickert. Mm-hmm. Sickert, qui est tout à fait inconnu pour nous, c'est leur mentor avoué. Donc c'est ça qu'on retrouve également dans cette évolution vers la transposition. Après, dire que c'est un manque d'inspiration, c'est un peu exagéré, c'est un choix d'inspiration différent. Prenez ce que fait Jeff Koons, par exemple, qui consiste à détourner, pour les mettre à des échelles inattendues, des objets, des visuels du quotidien. Mm-hmm. C'est exactement la démarche de Sickert. Son objectif, c'est précisément de donner le statut d'œuvre d'art à des choses qui, à l'origine, n'en sont pas forcément, qui sont des photos de presse, qui sont des affiches de spectacle, qui sont des gravures qu'on trouve dans des gravures de mode, des gravures qu'on trouve dans la presse victorienne qu'il a pu connaître de son enfance. Et ce qu'il souhaite magnifier comme ça, c'est justement l'imagerie populaire. Donner à cette imagerie populaire un statut d'œuvre d'art, toujours avec cette prétention de donner dans la grande peinture, la peinture d'histoire.
Et alors, il va enseigner cette technique-là, puisque lorsqu'il retourne en Angleterre à la fin de sa vie, il enseigne, et il va enseigner cette technique-là à ses étudiants. Donc c'est vraiment, comme vous disiez, c'est vraiment être précurseur.
Enfin. Ah oui, c'est un choix assumé.
Et il l'avait parfaitement compris. Alors, il y a The Heighting Manager, qui est cette toile de 1885 absolument géniale, où on sent la femme qui à la fois réfléchit et en même temps est complètement sidérée par ce qui se passe.
Voilà. Alors, c'est la directrice de théâtre, hein,
oui,
qu'on retrouve.
C'est
sans
le metteur
doute
en scène,
fin,
en fait.
Ouais, alors, metteur en scène ou directrice de théâtre. Il y a les deux titres, hein, pour le tableau, encore une fois. En tout cas, c'est quelqu'un qui appartient au monde du spectacle et que l'on retrouve dans les coulisses. Elle est assise, je devrais dire, avachie, effondrée sur un canapé. On sent que la représentation a été un four total, que c'est la fin de sa carrière, voire la fin de son théâtre qui vient de se jouer ce soir. Et on la retrouve complètement affalée. C'est la toile qui sert de transition, qui mène à la salle d'après, dans l'exposition qui traite justement du music hall. Et c'est une toile très particulière parce que c'est une toile qui est très réfléchie. aussi. Ça, c'est l'enseignement de Degas. On retourne un peu au début du peintre. Hein, dans un premier temps, avec Whistler, il va apprendre à maîtriser une palette de couleurs extrêmement sobre, extrêmement réduite, mais pleine de nuances, avec des toiles qui, en général, sont assez sombres et assez monochromes. Et puis, au contact, mais aussi une peinture extrêmement spontanée, sans dessin préparatoire, avec très peu de peinture.
Oui, parce qu'il commence pas à faire les fonds.
Ah, voilà.
Il commence pas à faire les fonds pour donner un peu l'ambiance qu'il voudra transmettre. Oui. Et à partir du fond, hop, il met alors souvent de la couleur et sur cette couleur, il va commencer le dessin, le trait. Et donc ça, c'est une technique que l'on... qu'on n'est pas habitué à voir.
Non, pas du tout, effectivement. Et elle est née de la rencontre entre ces deux influences, c'est-à-dire Whistler qui peint directement sur la toile sans travail préparatoire, et puis Degas qui, lui, au contraire, intellectualise énormément, travaille beaucoup, fait des dessins préparatoires, et ensuite transpose sur la toile des conceptions extrêmement intellectuelles. Et à ce titre, ce qu'on voit apparaître sur cette toile, The Acting Manager, c'est la présence d'un miroir.
Oui.
Bizarrement posé. Il est dans une espèce de ligne oblique qui est la continuation du corps de la femme, donc il semble trouver une place naturelle dans le tableau, et pourtant il n'a vraiment rien à faire là, d'autant que c'est un petit miroir rond qui est amovible, enfin qui est orientable, et qui là est orienté vers le plafond. Et c'est souvent le cas avec ces compositions intellectuelles de Sickert, on met longtemps à comprendre.
Oui.
Très longtemps à comprendre ce qui fait là ce miroir. En fait, ce miroir, il réfléchit. L'abat-jour en opaline bleue, qui est accroché au plafond et qui donne cette lumière un peu bleutée dans la pénombre que l'on retrouve en dessous. Voilà, et ben on met bien 10 minutes à comprendre.
Le miroir est la justification de la lumière qui n'est pas voulue par le peintre, mais imposée au peintre. C'est ça.
Oui, ou enfin, il a été la chercher.
Bien sûr.
Ça, l'intention du peintre, je ne sais pas.
Non, mais c'est ça qui est formidable dans sa peinture, c'est qu'il y a aussi quelque chose de ludique.
Ah oui.
C'est-à-dire que ce que vous disiez sur le côté comédien, le côté caméléon qui va changer de titre, on aurait pu avoir le Roland Gervex, ce dont vous parliez tout à l'heure, de cette fille étendue et de cet homme, est-ce qu'il l'a tué, pas tué, est-ce qu'il va sauter par la fenêtre ou pas sauter par la fenêtre, ça c'est Roland. Et on saura plus tard qu'en fait il s'agissait d'une prostituée, ce qui va faire décrocher le tableau lorsqu'il sera exposé la première fois. Mais là, il joue, notre ami joue sur les titres, comme on l'a vu, il joue aussi sur la lumière, il joue aussi, et il donne toujours un côté un peu ludique, c'est-à-dire la distance nécessaire pour vraiment comprendre le tableau, alors qu'au départ, au prime abord, on se dit bon, bah, c'est sombre. On a envie de dire c'est du Zola. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui.
Et en fait, non.
Et en fait, pas du tout. Et alors, ces miroirs, justement, il va les utiliser à l'excès.
Oui, beaucoup.
C'est-à-dire que on a vraiment parfois du mal à comprendre. Mm. Vraiment beaucoup de mal à comprendre ces toiles parce que on ne sait pas d'où vient la lumière. En fait, la lumière naturelle vient d'un côté, mais la lumière réfléchie dans le miroir qu'on ne voit pas dans le tableau vient
de l'autre côté. Il joue avec ça, c'est très très drôle.
Il va, le tableau de l'affiche par exemple, qui s'appelle Little Dot Hetherington, je crois, qui est le nom d'une actrice, le tableau de l'affiche, en fait ce qu'on voit, c'est pas du tout une actrice sur scène, contrairement à ce que l'on imagine. On la voit, oui, mais on la voit pas directement. Ce qu'on voit, c'est le miroir au fond de la salle qui réfléchit derrière nous, l'actrice, sur scène,
en train de jouer.
Et ça, on s'en rend compte quand on regarde les fauteuils du premier plan.
Oui.
Ils sont tournés vers nous.
Oui.
Donc, on regarde avec la scène derrière nous. Et juste au-dessus des fauteuils se trouve le bas du cadre de ce fameux miroir qui reflète la scène. Et bien ça, c'est quelque chose qui doit à un Français, encore une fois, à Manet. Et oui, parce qu'en 83, à Paris, il va visiter l'atelier de Manet, qui n'était pas avare
de visite,
qui ouvrait son atelier très volontiers à tous les jeunes peintres.
Et même à certains auteurs comme Émile Zola.
On sait. Et qui va y découvrir, en fait, un bar aux Folies Bergères. Un tableau qui aujourd'hui est au Courtauld Institute à Londres et qui représente une jeune femme derrière un bar, donc serveuse, mais que on voit également par l'arrière,
à travers le miroir.
Voilà. Il va adorer ce jeune miroir.
Eh bien, merci Laurent Bonneval de nous y avoir emmené. Vous emmenez, venez et voyez.
Tout à fait.
Il y a combien de dates?
Alors, on a encore 3-4 dates qui sont disponibles.
Bon, donc venez-y voyez.fr ou .com ?
Venez-y-voyez.fr.
Venez-y-voyez.fr, vous inscrivez pour que Laurent Bonneval nous emmène comme il nous a emmené aujourd'hui à l'exposition qui se tient au Petit Palais jusqu'au 23 janvier. Il ne reste que 2 mois, c'est à voir une peinture attachante, une histoire simple, une fascination aussi pour Jacques l'Éventreur. On n'en a pas parlé, mais il faudra en parler dans votre visite avec Venez-y-voyez. Et puis l'étoile des patentes, naturellement. Merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques. Et puis à François Dieudonné, bien sûr, pour la programmation, à Pierre-Marie pour la rediffusion sur les réseaux sociaux. Demain, je recevrai Françoise Collet pour son décapant roman Vivante. Ce sera avec Cécilia Duterte et une nouvelle voix, Myrna Hellou. Mais ça, ce sera pour demain. Au revoir.